Welcome to the debate. En démocratie, l'équation arithmétique est censée être super simple. Le parti qui récolte le plus de suffrages dirige le pays.
En théorie, oui. C'est la base.
Voilà. Mais imaginez un instant qu'une formation politique progresse d'à peine 1,5 point aux élections, reste 3 fois plus petite que le parti dominant, et bah, parvienne pourtant à s'emparer la tête du gouvernement. Et ça, pour un mandat d'une longévité record.
Ce qui est le paradoxe absolu des élections générales italiennes de juin 1983, en fait. Après la chute du gouvernement du démocrate chrétien Amintore Fanfani, c'est Bettino Craxi, le dirigeant du Parti socialiste, qui rafle la mise.
Exactement. Et la question qui nous divise aujourd'hui, elle est très claire. Est-ce que cette accession au pouvoir, c'est le triomphe d'une stratégie politique magistrale de la part de Craxi, ce que je soutiens fermement, ou alors simplement la conséquence inévitable de l'effondrement de la démocratie chrétienne?
Je pense vraiment que le moteur de ce bouleversement institutionnel, c'est pas du tout l'habileté de Craxi. Je défends l'idée que c'est une usure structurelle.
D'accord, mais comment on peut ignorer sa passion stratégique?
En regardant les chiffres, regardez froidement les résultats de juin 1983. Le Parti socialiste italien y passe de 9,8 à 11,4%.
C'est une progression, quand même.
Une progression d'un point et demi. C'est pas un raz-de-marée. Le vrai séisme, c'est la débâcle de la démocratie chrétienne. La fameuse DC qui tombe à 32,9%. Ils perdent une trentaine de sièges au Parlement d'un coup.
C'est vrai que c'est une sacrée chute pour eux.
Ah, c'est une sanction brutale. Un électorat épuisé par 35 ans d'hégémonie ininterrompue, une hégémonie qui était minée par le clientélisme et les scandales. Donc, pour moi, Craxi n'a pas conquis le pouvoir, il a juste comblé le vide laissé par un géant qui s'effondrait sur lui-même.
Sauf que combler ce vide, ça demandait une vision à long terme. Une vision que lui seul possédait à l'époque.
Moi, je suis pas convaincu.
Si, je vous assure. Ce point et demi semble modeste, je vous l'accorde, mais sa valeur stratégique est colossale. Le gars a patienté 7 ans à la tête de son parti pour construire cette configuration exacte. Il savait très bien que le Parti communiste pesait près de 30% des voix.
Ce qui était énorme pour l'époque.
Énorme, oui, oui. Mais totalement bloqué aux portes du gouvernement par le cordon sanitaire de la guerre froide. Les Occidentaux refusaient catégoriquement de voir des communistes au pouvoir dans un pays de l'OTAN. Et en exploitant ce blocage, Craxi s'est rendu absolument indispensable.
Indispensable, peut-être, mais il restait ultra minoritaire. Comment un parti qui pèse 11% peut-il imposer son leader à la présidence du Conseil? L'arithmétique du pouvoir, en fait, elle restait totalement contrôlée par la DC.
Mais il était au centre du jeu.
Attendez, la coalition gouvernementale, le fameux Pentapartito, avec ses 5 partis de centre et de droite, détenait 58% des sièges. Et qui fournissait les troupes de cette majorité? La démocratie chrétienne. S'ils ont cédé la direction à Craxi, c'est uniquement parce que la DC était paralysée par des guerres de factions internes.
Des guerres fratricides, oui.
Exactement. Des guerres si violentes qu'aucun de ses propres dirigeants ne pouvait émerger sans se faire abattre par son propre camp.
Je vois ce que vous dites, mais c'est justement là que Craxi s'est comporté comme la clé de voûte d'une arche.
C'est-à-dire?
La DC fournissait toutes les pierres lourdes de la coalition, certes, mais sans cette petite pierre centrale qui était le Parti socialiste. Tout l'édifice s'effondrait. Et c'est exactement ça qui lui a permis de dicter ses conditions. Si c'était qu'une illusion d'optique, comme vous dites, comment vous expliquer qu'il ait exercé ce pouvoir avec autant d'autorité?
De l'autorité?
Oui, il n'a pas fait de la figuration pendant les 3 années de son gouvernement. C'était une longévité inédite pour la République italienne.
Ah, la longévité, d'accord. Mais il a surtout bénéficié d'une trêve temporaire accordée par la DC. Il trouvait ça très commode de lui laisser la vitrine. C'était bien pratique de lui faire porter le poids politique des décisions les plus difficiles.
Des décisions qu'aucun gouvernement d'ici n'avait eu le courage de mener, faut le dire. Je veux dire, il a imposé par décret le gel de l'échelle mobile des salaires.
Ce qui a provoqué des tensions énormes.
Oui, il a cassé l'indexation automatique sur l'inflation pour stopper la spirale des prix. Et sur le plan international, rappelez-vous la crise de Sigonella en 1985. C'est fou, il a littéralement envoyé les carabiniers italiens encercler les forces spéciales américaines sur une base militaire en Sicile.
Pour refuser de leur livrer un commando palestinien, oui.
Voilà, il a tenu tête au président des États-Unis pour affirmer la souveraineté juridique italienne. Ça, c'est l'action d'un homme qui maîtrise pleinement son pouvoir, pas d'un figurant placé là par défaut.
Ces coups d'éclat cachent mal la réalité structurelle, en fait. Le pouvoir réel, les ministères clés et toute la vaste machinerie de l'État, tout ça restait noyauté par la démocratie chrétienne.
Noyauté, le mot est fort.
mais c'est la réalité. La mécanique institutionnelle italienne de l'époque est fascinante, on est bien d'accord, car L183 ne marque pas l'avènement triomphal de l'ère socialiste. C'est avant tout la première grande fracture dans le barrage de l'ADC. Un schéma d'effondrement lié à l'usure du pouvoir, qu'on verra exploser de manière bien plus systémique une décennie plus tard.
C'est une façon très pertinente de voir les choses. Mais cet épisode reste la preuve magistrale que dans un système parlementaire complexe, la capacité à s'imposer comme le point d'équilibre géopolitique, bah ça vaut toutes les majorités absolues.
On peut au moins s'accorder sur le fait que la politique italienne a une mécanique institutionnelle vraiment unique au monde.
Ah, totalement. Et le décalage entre le modeste 11% des urnes et l'autorité redoutable exercée par le gouvernement Craxi, ça pose une question fondamentale.
Savoir à qui appartient vraiment le pouvoir.
C'est ça. Le pouvoir appartient-il à celui qui fournit le plus grand nombre de pierres ou à celui qui a compris comment faire tenir tout l'édifice? On vous laisse méditer là-dessus.